Ce qu'on reproche à ces deux pays, c'est que les déficits structurels, c'est-à-dire la partie de leur déficit qui ne dépend pas du cycle, ne descend pas, ne baisse pas de façon suffisamment rapide. Et donc, on les a mis en procédure d'infraction. Je ne crois pas qu'on arrivera à une sanction. Il faut se rappeler que jamais un pays n'a été sanctionné avant. Mais c'est quand même un message politique que la Commission envoie. Si on dépense trop et donc on est sanctionné, la sanction consiste à nous faire dépenser encore plus davantage. C'est toujours une contradiction qui jusque-là était un peu une curiosité théorique, entre guillemets. Aujourd'hui, ça pourrait devenir une réalité. C'est-à-dire des pays qui ont des difficultés à revenir à l'équilibre budgétaire se voient imposer un coût additionnel par la Commission. Ça va certainement ne pas avoir des effets bénéfiques sur les finances publiques. Et donc, ils devront peut-être serrer encore un peu plus le budget. On réduit la dette, mais en faisant ça, on cause une récession qui cause une baisse de la croissance, qui cause un problème de soutenabilité, et on continue comme ça, et ça ne marche pas. Les cas exemplaires de ça, c'est la Grèce, mais les autres pays ne vont pas beaucoup mieux.
Quelle serait l'alternative ?
L'autre approche, c'est d'essayer d'attaquer la soutenabilité par une croissance forte. Une croissance forte qui, à terme, va rendre la dette soutenable. Et ça, c'est la stratégie, par exemple, qu'ont adopté les États-Unis. Les États-Unis ont fait des dépenses en déficit pour faire revenir la croissance en 2009. Et la croissance est revenue. Et aujourd'hui, leur déficit est beaucoup plus bas que dans la plupart des pays européens. Aujourd'hui, l'Espagne et le Portugal semblent avoir annoncé une stratégie différente. Le Portugal dit, si vous voulez qu'on revienne à la soutenabilité des finances publiques, il faut qu'on retrouve d'abord la croissance. Et pour faire ça, on ne peut pas nous demander de réduire le déficit. Honnêtement, je pense que c'est la bonne stratégie. L'autre, on l'a testé et jusque-là, elle n'a jamais marché. Elle n'a pas marché en Espagne, elle n'a pas marché en Grèce, elle n'a pas marché en Italie, elle ne marche pas en France.
Justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une certaine aussi contradiction entre cet attachement de la Commission aux règles budgétaires strictes et de l'autre côté, une politique plus expansionniste de la Banque Centrale Européenne? Est-ce que les institutions tirent vraiment dans le même sens?
C'est un peu le paradoxe. Mario Draghi, la BCE en général, aimerait bien faire le boulot, s'occuper de l'inflation et laisser les pays mettre en place les stratégies qu'ils pensent appropriées pour la croissance. Donc, l'activisme de la BCE n'est pas une attitude naturelle, mais comme il y a un manque de soutien à la croissance de la partie des pays membres, le seul acteur qui aujourd'hui est en train d'essayer de faire quelque chose, c'est la BCE, et contre les pays de la zone euro. Ça, c'est clair de plus en plus dans la communication de la BCE qui continue à dire on n'y arrive pas, on ne peut pas le faire tout seul, on a besoin du support des pays membres, on a besoin que les politiques budgétaires soient adaptées, on a besoin qu'il y ait plus de réformes. Tout ça, la BCE le dit parce qu'ils se rendent compte que c'est comme s'ils étaient en train de tirer tout seul l'économie européenne. Et comme aujourd'hui, on n'a pas un problème de liquidité, on a un problème de confiance et de demande, en tirant tout seul, en injectant de la liquidité dans les systèmes, ils n'arrivent pas à faire redémarrer la croissance. Et donc oui, il y a une contradiction, il y a une impasse. Si vous voulez, la BCE essaie d'agir un remplacement des pays membres qui ne font pas leur travail.
Et justement, pourquoi est-ce que la Commission, entre autres, les pays membres, s'entêtent un petit peu dans ces politiques d'austérité qui, selon vous, ne marchent pas? Est-ce que c'est des raisons économiques ou est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière cela des raisons politiques?
C'est un peu le cœur du sujet. Pourquoi on s'obstine depuis 2010 à mettre en place des politiques qui sont manifestement aussi incapables de nous sortir de la crise? D'un côté, il y a des éléments culturels. L'Allemagne a une culture économique qui a toujours été opposée à l'intervention publique dans l'économie. Et donc, pour eux, c'est difficile de concevoir un rôle actif de l'État et de la politique budgétaire. Il y a des raisons politiques, parce que les pays qui sont en crise aujourd'hui sont des pays qui ont, quelques-uns parmi eux au moins, par le passé, donné preuve d'instabilité budgétaire et d'irresponsabilité budgétaire. Et il y a aussi un entêtement un peu idéologique sur une vision des marchés qui serait capable de revenir à l'équilibre tout seul. Tout ce mélange des facteurs un peu politiques, un peu économiques, un peu entre guillemets idéologiques, a mené à des politiques qui n'ont pas changé. Et je répète, on est le seul au monde qui est en train de s'entêter dans cette stratégie. Les États-Unis ne l'ont jamais appliqué. D'autres pays qui l'ont appliqué, comme le Japon au début, l'ont abandonné, comme l'Angleterre. Nous restons les seuls qui sont aujourd'hui convaincus que l'austérité va nous ramener à la croissance.
Peu après le Brexit, on a vu à côté du couple franco-allemand Matteo Renzi. On sait que le chef du gouvernement italien est opposé à ces politiques d'austérité ou du moins à un tel niveau d'austérité. Est-ce qu'on pourrait assister à une évolution de ces politiques dans les prochains mois ou est-ce que la décision d'aujourd'hui prouve bien que non, l'austérité reste la règle et la norme qui va s'appliquer dans les prochains mois?
Je crois que le président du Conseil italien Matteo Renzi est effectivement engagé dans une démarche de remise en cause des politiques qu'on a menées jusque-là. Je pense que l'Italie, l'économie italienne est objectivement en très grosse difficulté. n'a pas les poids pour faire bouger les lignes. Le seul pays qui a la capacité et les poids politiques de faire bouger les lignes et de créer une sorte de contre-pouvoir à l'Allemagne au sein du Conseil, c'est la France. Et je ne la vois pas, la France, aujourd'hui, s'engager dans cette bataille, parce que probablement le président Hollande n'y croit pas. J'ai craint qu'aujourd'hui, il n'y ait pas la force politique pour changer les choses, sauf si la crise continue à empirer. Mais est-ce qu'on souhaite que tout aille pire pour aller mieux après? Je ne sais pas.
Vous avez parlé de la France. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une frilosité parce que la France elle-même a un déficit qui est excessif et n'arrive pas à rejoindre cette barre des 3%?
Oui, là, il y a un autre gros problème qu'on a en Europe. C'est-à-dire qu'il y a, pour citer George Orwell, tous les animaux sont égaux, mais il y en a quelques-uns qui sont plus égaux que les autres. C'est-à-dire, un autre effet de cette décision de ce matin risque d'être le fait que les petits pays pourraient se dire, mais pourquoi pas la France, pourquoi pas l'Italie? L'Italie aussi, vous savez, elle a obtenu, grâce à la flexibilité, quelques points de déficit en plus, et donc, justement, qu'on ne déclenche pas cette procédure. Ça prouve qu'encore une fois, qu'il y a aussi un aspect politique qui est très important dans ces négociations, et que les petits pays pourraient, au bout d'un moment, se trouver confrontés à des choix qui ne sont pas souhaitables. L'Autriche va aller voter dans quelques mois. L'Autriche pourrait se dire, est-ce que l'Union européenne où les grands pays ont un poids que les petits pays n'arrivent pas à avoir, ils sont traités de façon différente, est-ce qu'elle nous plaît? Je pense que c'est un très gros problème aussi de démocratie interne, cette décision.